Depuis 1948, les Israéliens occupent à nouveau une partie de ce qu'ils appellent la Terre promise en Palestine et qui avait été donnée en héritage par l'Éternel à leur ancêtre Abraham. À toutes les époques, les Juifs ont idéalisé ce pays au point où pour eux il est pratiquement équivalent au royaume de Dieu. Avant qu'ils ne fassent la conquête de Canaan sous la conduite de Josué, les Hébreux pensaient qu'une fois arrivés en Terre promise, ils connaîtraient enfin leur repos. Pourtant, depuis qu'ils s'y sont installés une première fois il y a plus de 3000 ans, ils en ont été expulsés à plusieurs reprises et quand ils reviennent en Palestine, ils sont en guerre déclarée ou latente avec leurs voisins. On peut donc dire que les Juifs sont encore en errance et n'ont vraiment jamais connu le repos que l'Éternel leur avait promis, et la raison tient au fait qu'ils lui ont toujours désobéi. Je continue à lire dans le chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour qu'il appelle aujourd'hui lorsqu'il dit, beaucoup plus tard dans les psaumes de David, ces paroles déjà citées. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. En effet, si Josué avait assuré le repos aux Israélites, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Verset 8. La génération de ceux qui étaient sortis d'Égypte n'a pas vu la terre promise. Par contre, Josué y a conduit leurs enfants. Mais cette entrée dans le pays promis ne constitue pas le vrai repos de Dieu. La preuve est que bien plus tard, dans un psaume, Dieu renouvelle son offre d'entrer dans son repos. Derrière cet argument, l'auteur enseigne que la conquête effectuée par Josué n'a pas conduit à une possession permanente de la Palestine, ce que l'histoire a confirmé. La promesse de Dieu au peuple élu ne se réalisera vraiment que dans le royaume messianique, ce qui est une espérance encore à venir. Soit dit en passant que le bonheur, la prospérité et la santé que promettent les sectes ne sont rien d'autre qu'un miroir à alouette pour appâter le chaland. Selon les Écritures, ces bienfaits n'auront cours que dans le millénium. Pour nous aujourd'hui, la nature du repos de Dieu a surtout une dimension spirituelle. Et malgré les bénédictions terrestres qu'il peut nous accorder, sa promesse fondamentale est le repos de l'âme en Jésus-Christ. Je continue le texte. C'est donc qu'un repos reste pour le peuple de Dieu un repos semblable à celui de Dieu le septième jour. Verset 9. Le peuple de Dieu désigne plus particulièrement les Hébreux car le salut est d'abord pour eux. En effet, l'apôtre Paul écrit « L'Évangile est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les Juifs d'abord et aussi les non-Juifs. » Le repos de Dieu est donc promis premièrement aux Israélites et Dieu poursuivra son plan avec eux jusqu'à ce que le nouvel Israël entre dans le millénium de Jésus-Christ. Je continue. Car celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Verset 10. Une fois la création terminée, Dieu ne s'est évidemment pas assis à l'ombre d'un palmier parce qu'il n'en pouvait plus. Dieu s'est reposé signifie qu'il avait terminé. Et depuis la fin de la création du monde, Dieu n'a plus rien appelé à exister à partir de rien. En effet, en cours de physique, on m'a enseigné que le chimiste français Lavoisier avait montré qu'au niveau de l'énergie, rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. Et plus tard, Einstein a prouvé que la matière n'est jamais que de l'énergie en puissance. Le sabbat que Moïse a donné au peuple juif provient du septième jour de la création où il est dit que Dieu se reposa. Mais en réalité, ce repos est pour le bénéfice de l'homme et symbolise la paix et la tranquillité parfaite qu'il habite quand il est en communion avec son Créateur. Adam et Ève ont connu ce repos absolu avant qu'ils ne désobéissent à Dieu et choisissent de suivre Satan. Depuis ce jour, l'homme est une âme en peine qui cherche le repos et il ne peut le trouver qu'en Jésus-Christ, car c'est lui qui est notre paix. Le sabbat enseigne aussi qu'on ne peut goûter le repos qu'après avoir terminé sa tâche, tout comme l'Éternel s'est reposé à la fin de son activité créatrice. Mais qu'est-ce que l'auteur de cette épître demande donc à ses lecteurs de faire? Comme il ne peut être question d'une œuvre afin d'obtenir le salut, puisqu'il est gratuit, la tâche qu'ils doivent accomplir consiste à persévérer jusqu'à la fin de leur séjour ici-bas en modelant leur vie sur Jésus-Christ, car lui s'est montré digne de la confiance de celui qu'il a établi, c'est-à-dire Dieu. Cet enseignement n'est pas nouveau puisque l'auteur a déjà dit que nous sommes associés au Christ si toutefois nous conservons fermement et jusqu'au bout l'assurance que nous avons eue dès le début. Et encore, sa maison, c'est nous, si du moins nous gardons la pleine assurance et l'espérance qui font notre gloire. L'auteur fait souvent référence à la persévérance des saints pour reprendre l'expression de Calvin. Le devoir de tout croyant est de rester fidèle à Jésus-Christ, quoi qu'il arrive, et jusqu'au terme de son pèlerinage sur terre. Et en cours de route, je pourrais expérimenter la paix de l'âme et la tranquillité de l'esprit que Dieu promet à ceux qui se confient en lui. Une image de ce repos de Dieu nous est donnée par l'attitude qu'une certaine Marie adopta envers le Seigneur. Je rappelle l'histoire. Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir au pied de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. J'ai bien peur d'être davantage une Marthe qu'une Marie, car pour brasser de l'air, je n'ai pas mon pareil. Pourtant, il est tellement plus facile et agréable de ne rien faire et de simplement s'asseoir au pied du Seigneur à l'écouter. Même si les croyants peuvent déjà goûter en partie le repos de Dieu ici-bas, comme je l'ai déjà dit, le vrai repos est encore à venir. Quand l'apôtre Jean était exilé sur l'île de Patmos, il a entendu une voix qui disait « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » D'après le verset précédent, ces œuvres sont la persévérance des croyants dans l'épreuve. Les paroles citées par Jean anticipent le dernier jour quand le Seigneur reviendra pour mettre fin au règne de l'Antéchrist et établir son royaume de 1000 ans. Alors, toutes les souffrances des croyants prendront fin et ils entreront dans le repos en présence de Jésus. Je continue le texte. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe dans la désobéissance à l'exemple des Israélites. Verset 1. Une fois encore, l'auteur exhorte ses lecteurs d'entrer de toute urgence dans le repos de Dieu. C'est avec diligence, empressement et détermination que tous les hommes devraient venir à Jésus et l'accepter comme leur sauveur en se réfugiant à l'abri de la croix, de peur qu'à l'instar des Hébreux dans le désert, il ne rate le coche et tombe sous le jugement de Dieu. Je continue. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Verset 12. Au début de l'évangile de Jean, la parole de Dieu représente la personne du Christ et il pourrait en être de même dans ce passage. Cependant, dans l'ensemble des Écritures, le texte inspiré est souvent comparé à une parole vivante. De plus, lorsque Jésus est décrit dans une scène de jugement, il n'est pas lui-même une épée, mais il porte une épée aigu à double tranchant, ou bien il apparaît avec des yeux qui ressemblent à une flamme de feu. Donc ce passage fait bien allusion au texte écrit et qui est appelé la parole de Dieu parce qu'elle est d'origine divine, même si elle a été transmise par des agents humains. Avec ce commentaire sur la parole de Dieu, l'auteur termine une démonstration dans laquelle il a utilisé un passage tiré d'un psaume pour expliquer l'échec des Hébreux à entrer dans le repos de Dieu. Ce discours n'était pas un simple récit historique, mais une leçon dont il nous faut tirer profit. L'auteur conclut son discours et ses avertissements sur une note grave. En effet, si ses lecteurs ne s'empressent pas d'entrer dans le repos que Dieu leur offre, ils seront jugés par la parole à laquelle ils refusent d'obéir et qui est un instrument de jugement divin. La croix, par contre, est le lieu où le pécheur trouve grâce et miséricorde qui conduisent au repos de son âme. La parole de Dieu est vivante et efficace. Le mot traduit par efficace a donné énergie en français. L'auteur veut dire que lorsque le Seigneur parle, sa parole n'est jamais lettre morte, mais agit et a un effet. L'exemple type, pour ainsi dire, c'est la création de l'univers. Dans le livre de la Genèse, il est écrit « Dieu dit et la lumière fut ». Même chose pour l'étendue du ciel, pour les eaux, la verdure, l'herbe et sa semence, les arbres fruitiers, les luminaires dans le ciel, le soleil et la lune, la multitude d'animaux vivants et les oiseaux. Le texte continue « Alors Dieu créa les grands animaux marins et tous les êtres vivants qui se meuvent et foisonnent dans les eaux, selon leur sorte, et tous les oiseaux ailés, selon leur sorte. Et Dieu dit « Que la terre produise des êtres vivants selon leur sorte, des bestiaux, des reptiles et des insectes et des animaux sauvages selon leur sorte. Et ce fut ainsi. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent. Et ce fut ainsi. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent. » Fin de citation. Dans une de ses épîtres, l'apôtre Paul écrit « Et voici pourquoi nous remercions Dieu sans nous lasser, en recevant la parole que nous vous avons annoncée, vous ne l'avez pas accueillie comme une parole purement humaine, mais comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. » Ici encore, il s'agit du mot qui a donné énergie. Les textes sacrés ont été écrits en intermittence par plus d'une quarantaine d'auteurs différents sur une période qui s'étend du deuxième millénaire avant Jésus-Christ au premier siècle de notre ère. Au fil des siècles, tous ces textes ont été rassemblés, classés, ordonnés, puis mis à la disposition du peuple de Dieu par des éditeurs qui ont rarement donné leur nom. C'est ainsi que s'est faite la canonisation de ce qui constitue aujourd'hui l'Ancien et le Nouveau Testament. Les critiques mal intentionnées qui ont essayé de les discréditer n'ont pas manqué, mais en vain. Ce sont les Écritures, l'épée de Dieu, qui jugent l'homme et non pas le contraire. La parole de Dieu est efficace parce qu'elle manifeste la puissance de Dieu. L'apôtre Paul écrit « Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de la puissance de l'Esprit. Ainsi votre foi a été fondée, non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. » La parole de Dieu produisait des fruits dans la vie de ses croyants parce qu'elle tire son origine du Dieu créateur vivant et vrai, lui qui donne la vie et transforme un individu charnel en une personne spirituelle. Le roi David demande « Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure ? C'est en se conformant à sa parole. Soit la parole de Dieu me préservera du péché, soit mon désir de mal faire me tiendra éloigné d'elle. » La parole de Dieu juge les dispositions et les pensées du cœur. Le mot traduit par « juge » a donné « critique » en français. La parole me critique en mettant le doigt sur la plaie béante de mes fautes. Elle discerne et analyse tout, parfaitement, absolument. Elle porte un jugement sur le comportement visible, mais elle sait aussi discerner et révéler au grand jour les motivations et les intentions secrètes, ce que même le plus avisé des juges humains est totalement incapable de faire. Il ne faut pas oublier que toutes nos actions trouvent leur origine dans notre cœur. Jésus a dit « C'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, au blasphème. Voilà ce qui rend l'homme impur. » C'est un bien triste tableau, et pourtant, c'est ce que votre cœur et le mien sont capables de produire. Le prophète Jérémie écrit « Le cœur est tortueux plus que toute autre chose et il est incurable, qui pourrait le connaître ? » En fait, je ne connais pas la profondeur du mal qui m'habite. Dieu seul le sait et c'est l'épée de sa parole qui me sonde et me le révèle et elle ne commettra aucune erreur de jugement. Toutes les hypocrisies qui ne sont pas dévoilées aujourd'hui le seront au dernier jour et alors la véritable personne sera mise à découvert. Si la parole de Dieu apporte le salut et le réconfort, elle est aussi un instrument de jugement. Le jour où nous comparaîtrons devant le tribunal céleste, elle pénétrera au plus profond de notre être intérieur et éclairera les ténèbres des recoins les plus inaccessibles. La parole du juste juge à qui rien n'échappe sondera les cœurs et tout ce qui aura été caché sera découvert. À ce moment-là, seront révélés les faux-semblants, les impostures et les hypocrisies. Alors, ni la plus orthodoxe des professions de foi publique, ni la plus impressionnante liste de bonnes œuvres, même faites avec sacrifice, n'aura la moindre valeur devant celui à qui nous devons rendre des comptes, non seulement pour toutes nos actions, mais aussi nos pensées, intentions et motivations. Je ne vous cacherai pas que je veux absolument éviter de me voir observé de cette manière sous toutes les coutures par le divin maître. Vous êtes comme moi, je présume. C'est pourtant ce qui nous attend, à moins de chercher de toute urgence un refuge sous la croix afin d'échapper au regard scrutateur de Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. Sont toujours des paroles d'actualité. Par définition, une épée à double tranchant coupe dans deux sens. Si parfois vous vous sentez personnellement visé par ce que je dis, imaginez ce qu'il en est pour moi. Quand j'étudie la parole de Dieu, je suis en première ligne car elle s'adresse d'abord à moi et je n'aime pas toujours entendre ce qu'elle veut me dire. Le pouvoir de pénétration de la parole de Dieu est bien plus grand que celui d'une épée quelconque à double tranchant, puisqu'elle atteint les tréfonds de l'être et décortique les dispositions et les pensées du cœur. Quand j'accepte de me laisser ainsi juger par la parole, elle me montre d'une part ce que je fais par pure dévotion pour Dieu, ce qui ne pèse pas bien lourd dans la balance, et d'autre part ce qui, au contraire, est accompli pour satisfaire un quelconque besoin personnel et qui, malheureusement, fait des tonnes. Bien que nos dispositions intérieures soient aussi étroitement enchevêtrées que le sont jointures et moelles dans notre corps, la parole de Dieu est capable de faire la différence entre ce qui sort de mon âme, c'est-à-dire de mon être charnel, et ce qui vient de mon esprit régénéré par le Saint-Esprit de Dieu. Il faut dire que la vie intérieure du croyant est toujours faite d'un mélange de motivations à la fois spirituelles et humaines, et seul un agent surnaturel comme la parole de Dieu peut démêler de telles complexités et dénoncer ce qui provient d'un cœur injuste et méchant. En toute probabilité, l'auteur s'adresse à des Hébreux qui pensaient que leur conduite relevait d'une démarche purement spirituelle alors qu'en réalité, ils faisaient preuve du même esprit de rébellion que leurs ancêtres. Je continue le texte. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Verset 13. Au premier siècle, le mot traduit par « nu » décrivait deux situations distinctes. La première était celle de deux lutteurs qui étaient forcés de se faire face l'un à l'autre. La seconde décrivait une scène de justice où un poignard à la lame effilée était attaché au cou de l'accusé avec la pointe juste au-dessous de son menton, de manière à ce qu'il ne puisse pas baisser la tête sans se blesser sérieusement, ce qui l'obligeait à faire face au juge. Dans les deux cas, nu se rapportait donc à des circonstances graves où la vie de quelqu'un était en danger. Comme tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte, il est tout à fait inutile et même ridicule d'essayer de lui cacher quoi que ce soit. Même la plus infime de mes motivations ne passe pas inaperçue à ses yeux. Cette vérité concerne tous les êtres humains sans exception, autant les croyants que ceux qui ne le sont pas. Étant donné que tous les détails de ma vie sont devant Dieu comme un livre grand ouvert, mon intérêt est de jouer franc jeu avec lui. Les contorsions et les détours sont peine perdue. Quant aux non-croyants, lorsque pour eux sonnera le jugement dernier, ils seront confrontés aux exigences de la parole de Dieu qu'ils auront bafouées et devront alors rendre des comptes au Dieu dont la sainteté est parfaite et la justice inflexible. Je sais pas vous, mais moi, de telles paroles, ça me donne froid dans le dos.